Alors, sans plus tarder, je vous demande de m'aider à accueillir M. Alain Deneau.
Merci beaucoup de l'accueil, M. Fourchette. Merci à toute l'équipe, la Société Gatineau Monde pour son formidable travail. C'est pas évident, à une époque comme la nôtre, qui est tellement dans l'instantané, d'organiser des rencontres comme celle-là autour de la pensée, autour des idées. C'est vraiment un accomplissement digne de mention. Bon, vous savez que je viens d'ici. En allemand, on appelle un Heimat l'endroit où on se sent chez soi. Et c'est mon sentiment ce soir. Et en espérant ne pas vous décevoir, je vais me permettre ce soir un exposé un peu plus à tâtons que ce à quoi je suis habitué ces dernières années. J'ai eu l'occasion, en effet, à deux reprises, de présenter des recherches à l'occasion des rencontres de la Société Gatineau Monde. Et à chaque fois, c'était sur des travaux assez avancés. La première fois, c'était un moment électrique à la Maison du citoyen sur les sociétés minières en Afrique. Et la deuxième fois, c'était sur le rôle des sociétés canadiennes, notamment dans le secteur financier, dans la Caraïbe britannique, pour rappeler que ce sont des Canadiens qui ont créé les paradis fiscaux britanniques et qui s'en sont ensuite largement inspirés ici pour permettre à une oligarchie, à des sociétés privées puissantes, de contourner les lois et leurs obligations fiscales. Et bon, je ne me voyais pas ici revenir puis réchauffer un peu ces propos-là ou les prendre simplement par un autre bout. Alors, je me suis proposé avec vous, en espérant que vous ne vous sentirez pas des cobayes, de parler du travail sur lequel je me penche actuellement. Je travaille à terminer un livre qui, pour l'instant, fait 600 pages au grand dam de mon éditeur, sur la question des multinationales, mais plus précisément sur celle du domaine pétrolier, et plus précisément sur une société pétrolière qui est française et qui s'appelle Total. Et je m'intéresse à la façon, à titre de cas d'école, à la façon dont une multinationale aujourd'hui et dans son histoire se développe, s'impose comme un pouvoir qui est beaucoup plus redoutable que bien des autorités politiques, que bien des pays, pour le dire simplement. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est d'une part partir de la question des paradis fiscaux quand même, parce que mon interrogation part de cet enjeu-là, y revenir, synthétiser un certain nombre de choses, et dans un deuxième temps, raconter une histoire qui est celle de l'existence des multinationales. On pourrait s'en étonner. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il faille que ce soit une société principalement qui nous vende des boissons sucrées, qui ne sont absolument pas compliquées à concevoir. Là, c'est de l'eau, un peu de gaz, puis du sirop, beaucoup de sucre. Et voilà. Et d'Asie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe et l'Afrique, c'est à une seule société, en tout cas principalement, qu'on se réfère pour ce produit-là. On pourrait dire la même chose du pétrole. On pourrait dire la même chose de bien des produits dans le domaine de la finance, de l'assurance, de l'agroalimentaire. Et le reste est le reste. Évidemment, la mécanique, l'automobile, ainsi de suite. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de se demander mais pourquoi on en est arrivé là? Comment il se fait là, qu'aujourd'hui, il y ait une tendance à la fusion des entreprises, de sorte qu'il n'y en ait plus qu'une poignée qui, au fond, monopolise pratiquement la production de biens dont souvent nous avons besoin. Bon. Et je partirai d'abord avant tout des paradis fiscaux pour poser le problème. Les paradis fiscaux, parfois, je ne sais pas, à force de me répéter, j'ai l'impression qu'on est tous un peu initiés. Mais il est vrai qu'on en parle beaucoup depuis les Panama Papers. J'y reviens rapidement. Les paradis fiscaux constituent un deuxième régime de législation politique parallèle historiquement à celui auquel on est habitué. Quand on pense à des pays, normalement, on se dit le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Brésil, le Japon, etc. Bon, en marge de ces pays-là, il y a les paradis fiscaux. Ce sont des pays complaisants, qui ont complètement aménagé leur loi sur un mode ultra-permissif pour favoriser la haute finance et la grande industrie constituée sous la forme de multinationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout dans le monde, il y a des contraintes publiques. Il existe sur un mode négatif, un peu comme par rapport à la photographie, là, c'est une métaphore, un mode négatif, là, il existe des pays qui permettent ce qui est interdit ailleurs. Si une entreprise ne peut pas embaucher des enfants, mais elle peut délocaliser ses usines au Bangladesh et embaucher des enfants. Ici, on ne peut pas salarier quelqu'un à $1 par jour, on le peut en Chine. Ici, dans le domaine de l'assurance, on ne peut pas emprunter sur les marchés financiers comme on veut et jouer à la bourse comme si on était au casino. Mais aux îles Caïmans, on le peut. Aux îles Turques-Caïques, on le peut. On ne peut pas éviter... On ne peut pas se facturer à soi-même des biens qu'on possède, hein? Mais on peut se scinder en deux et aller en Irlande, confier des droits de propriété intellectuelle, des brevets à une filiale qui va nous les facturer à soi-même pour qu'on réduise notre facture fiscale ici. On ne peut pas enregistrer une plateforme pétrolière aux États-Unis et s'attendre à n'avoir aucun retour si on pollue. Mais si on inscrit une plateforme pétrolière aux îles Marshall, on le peut. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les paradis fiscaux sont des législations qui neutralisent le droit tel qu'il est en vigueur dans les différents pays du monde. Bon. Et s'ils fonctionnent comme ça, s'ils sont une menace radicale, même pas pour la démocratie, je pense qu'on n'y a jamais vraiment été, mais pour ne serait-ce que pour l'état de droit. Parlons sobrement de l'état de droit. C'est un état dans lequel il y a grosso modo des droits auxquels on peut plus ou moins se référer, qui s'appliquent, qui se vérifient plus ou moins. Bon, mais cet état-là, qui est le cadre dans lequel le débat politique peut se faire, dans lequel il peut se concevoir, cet état-là est menacé par des multinationales qui deviennent un nouveau type de pouvoir et qui élaborent un nouveau type de loi. Et ce sont des lois, c'est un pouvoir qui menace ceux auxquels on est habitué. Et c'est ce qui m'a intéressé au départ. D'abord, pour que ce soit très clair, et ça montre qu'il y a un degré, je veux dire, d'ignorance sur ce que sont les multinationales, qui est presque catastrophique là, en ce qui concerne la vie publique, c'est que très souvent, on pense aux multinationales sur un mode unique. On a l'impression que Coca-Cola, c'est une société, que Microsoft est une société, Amazon, Starbucks, ainsi de suite, toutes ces sociétés-là multinationales sont une. Alors qu'au contraire, ce qui les rend puissantes, c'est d'être fragmentées. Elles n'existent pas sur un mode un. Elles existent sous la forme de filiales, trusts, sociétés internationales, banques privées, holdings, ainsi de suite. Elles existent sur un mode éclaté et c'est ce qui leur permet de continuellement déjouer les autorités publiques. Parce qu'elles sont bien contentes d'être ici quand il est avantageux d'être présent formellement dans un pays comme le nôtre. Elles ont accès à un personnel formé sur mesure, à un système routier, un réseau d'aqueduc, à un système de police, un système de justice, ainsi de suite, tout va bien. Mais quand vient le temps de payer son dû, quand vient le temps d'honorer la facture, ce qui s'appelle l'impôt, hein, pour bénéficier de toutes les infrastructures publiques, là, tout d'un coup, on n'est plus ici. Les actifs qu'on a ne sont plus ici, ils sont rendus ailleurs. Ils sont aux Bermudes, au Panama, au Belize, au Luxembourg, imposés à 0% ou à 0,25%. Quand on ne veut plus être contraint par des lois, on veut financer une dictature, on veut corrompre un agent politique, on veut transférer des armes à des rebelles qui occupent un territoire dans le domaine minier, c'est tout à fait légion, dans le domaine pétrolier, on passe évidemment par des filiales qui sont situées dans des pays opaques, qui permettent en quelque sorte l'impunité. Bon. Et sur un plan strictement fiscal, pour ne pas... partir sur les chapeaux de roue et être trop dramatique. On voit très bien ce qu'ont fait, par exemple, les gens de la famille Irving dans les Maritimes, par exemple, qui ont été parmi les premiers à utiliser les paradis fiscaux. C'est très pratique pour des gens comme ceux-là. En tout cas, à tout le moins, je ne suis pas dans le secret de leur comptabilité, mais on a compris dans ces années-là qu'il était possible pour une grande entreprise dans le domaine du bois, dans le domaine du pétrole, plutôt que de vendre depuis Halifax des biens produits par un personnel souvent sous-rémunéré à des clients, plutôt que de les vendre directement depuis Halifax et d'inscrire le revenu dans ses comptes à Halifax et de déclarer à la fin de l'année un bénéfice et de payer des impôts sur ce bénéfice-là parce qu'il y a l'impôt sur le revenu des entreprises, on a compris qu'il était beaucoup plus rentable de vendre à sa filiale des Bermudes la production au prix coûtant. Ça me coûtait $1 million à produire mes biens, je les vends à $1 million à ma filiale, je déclare un revenu nul ici parce que j'ai dépensé $1 million pour produire des biens que j'ai vendus $1 million, je ne fais pas d'argent, mais ma filiale, elle, écoule la production auprès des clients et les profits sont enregistrés là-bas. Et on est bien content de voir qu'il n'y a plus que les pauvres et les imbéciles au bout du compte qui paient des impôts pour financer le système routier, le système de justice, le système de santé, ainsi de suite, dont on profite comme entreprise. Tandis qu'on a trouvé un stratagème, étant donné l'éclatement des groupes multinationaux en plusieurs entités nationales, hein, pour jouer des frontières et, par des jeux d'écriture juridique et comptable, éviter le droit, éviter la loi. C'est la même chose sur un mode peut-être plus indirect. Une société ici, dans la région, peut très bien avoir un client en Espagne, produire des biens ou des services, une expertise dont profite le client espagnol qui honore une facture, mais la facture, elle ne provient pas d'ici, elle provient de la Barbade. C'est la filiale de la Barbade qui envoie la facture, donc le fruit de la transaction est thésaurisé là-bas. Hein, ou d'une manière un peu plus subtile, il faut voir que les entités qui constituent un groupe multinational sont autonomes en droit. Sont autonomes en droit, ce qui veut dire qu'elles peuvent entre elles s'envoyer des factures. Dans le monde, hein, entre 40 et 60 des transactions financières internationales sont intra-groupes. Hein, c'est SO Canada qui envoie une facture à SO Irlande, c'est Amazon Royaume-Uni qui honore une facture qui provient de Amazon Suisse. C'est-à-dire que la majorité des transactions financières dans le monde sont des façons pour les grands groupes de transférer des fonds de façon à ce qu'il y en ait le plus possible dans les législations où le taux d'imposition est nul, où la loi est la moins conséquente possible, et d'en avoir le moins possible là où le taux d'imposition est réel. Et où il y a une imposition responsable pour financer des services publics et permettre au gouvernement de faire autre chose que de dire « j'ai plus d'argent pour rien » et se faire un selfie. Quoi. Bon. Et ce qui m'a intéressé au-delà de cet enjeu, parce que bon, tel est le problème, pour peut-être finir avec cette introduction, faire un parallèle, nous, comme particulier, comme individu. Nous ne pouvons pas dire à notre employeur, tout en étant ici, en bénéficiant d'un certain filet social avant qu'il disparaisse complètement, en bénéficiant de services publics, cette salle en est peut-être un signe. Bon, on ne peut pas dire à notre employeur, comme particulier, je reste ici, évidemment, je viens travailler chaque matin, mais j'aimerais bien que mon chèque soit viré à mon compte bancaire au Belize. Parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt, j'ai une carte de crédit, j'ai un chéquier, pas de problème. Je veux dire, j'assume mes dépenses courantes, mais je voudrais bien que délocaliser... Bon, pour les particuliers, ce n'est pas possible, pour les entreprises, ça l'est. C'est un peu plus complexe, mais au bout du compte, on y arrive ainsi. Et ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est d'essayer de voir comment s'est constitué ce pouvoir des multinationales. Comment il se fait qu'aujourd'hui, on en soit à constater que lorsque le président, directeur général de la firme pétrolière Total rencontre Vladimir Poutine à Moscou, le Kremlin émet un communiqué de presse à la suite de ce tête-à-tête-là, dans lequel on lit le dit PDG, Patrick Pouyanné, déclaré « Je représente la principale société française et lorsque je parle, c'est en quelque sorte la France qui parle. » Qu'est-ce que ça veut dire quand on en est là? Et d'où vient le problème? Et je vais faire... Peut-être que je vais devoir m'interrompre parce que, comme je vous dis, j'en suis à 600 pages, puis je ne vais pas vous les déverser oralement. Ici, on ne sera pas encore là à 2 heures du matin. Mais l'idée, c'est d'essayer de pointer dans un certain nombre de directions pour qu'au moins nous nous posions la question du pouvoir abusif des multinationales. Et on va voir que les États en sont pour quelque chose. Je profite de me faire un aparté parce que je vois Gabriel Sainte-Marie ici, député du Bloc québécois, mais qui aujourd'hui a contraint le gouvernement du Canada et les deux groupes parlementaires du Canada, à prendre fait et cause pour les paradis fiscaux en refusant de voter une motion non partisane qu'il avait inscrite au feuilleton à l'effet que le Parlement canadien condamne, en appel à une révision d'un accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade qui permet aux entreprises canadiennes sur un mode régulier d'y transférer 71 milliards de dollars d'une manière tout à fait factice pour éviter de payer leur dû. Et donc, le gouvernement du Canada est complice dans les mécanismes qui existent pour permettre aux multinationales de gérer filiale par filiale des capitaux de façon à éviter de payer leur dû. C'est un petit peu comme s'il y avait un poste à péage et que le gouvernement aménageait une voie de contournement pour les voitures de luxe. On en est là aujourd'hui. Bon. Mais d'où nous viennent ces logiques-là? D'où nous vient cette complicité? Quelle est la genèse? Évidemment, là, il me reste peut-être une demi-heure, je n'arriverai pas à faire complètement le tour. On peut au moins se rappeler ce qu'il en est déjà des sociétés privées sur notre continent et en particulier aux États-Unis. Avant 1886, je vais revenir au sens de cette date-là, les multinationales aux États-Unis étaient créatures des États. C'était des sociétés par action qui avaient un mandat. Lorsque l'État permettait la création d'une corporation, comme on disait, je vais utiliser l'anglicisme parce qu'il est commode, mais difficile à traduire, une société par action, disons, c'était par rapport à un mandat. Construire un barrage, construire le tronçon d'un chemin de fer, construire un pont, construire éventuellement une usine vouée à produire telle chose. Il y avait un mandat. Par le jeu de l'activité boursière, sur papier en tout cas, on favorisait l'allocation du capital de façon à ce qu'il soit au service de projets réfléchis par l'État. Bon, c'était une façon de développer cette colonie devenue indépendante qui était les États-Unis. Ce qu'on constatait, c'est que la bourgeoisie, qui était détentrice des capitaux, dépendait de l'État quand même pour structurer le territoire sur un mode, disons, concerté. L'État pouvait même retirer des autorisations d'incorporation à des investisseurs lorsqu'on jugeait que le mandat n'était pas respecté. Cela dit, je vous invite sur ce sujet-là à lire Saskia Sassoon, une philosophe américaine qui a écrit Critique de l'État, qui explique en quoi l'État a été un carrefour dans la modernité des luttes politiques et sociales. Bien sûr que l'État, toutes ces années-là, un État bourgeois, dont on a encore beaucoup les traces aujourd'hui, était tout à fait répressif et violent par rapport à beaucoup de minorités politiques. Évidemment, les ouvriers, les femmes, les étrangers, ainsi de suite, les Noirs aux États-Unis, vous dire, étaient les victimes des politiques étatiques. Et l'État était toujours du côté du capital quand venait le temps de trancher des différends. Mais néanmoins, l'État était en même temps le carrefour à travers lequel ces mêmes groupes opprimés essayaient d'obtenir des avancées. Par des luttes sociales, par l'organisation de mouvements politiques de gauche, d'extrême-gauche, des sociodémocrates, des communistes, ainsi de suite, on essayait d'avoir des lois sur le code du travail, sur la protection du travail, sur des droits pour des minorités, l'émancipation, ainsi de suite. Et donc, l'État restait un carrefour. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir que les sociétés multinationales ont soit d'une part complètement détourner l'État de cette espèce de semblant de neutralité qu'ils pouvaient avoir, l'ont complètement subordonné à leurs intérêts, ou s'en sont par moments complètement passés, en délocalisant, comme je le disais, leurs actifs dans des pays où tout devient possible, tout devient permis. Et on a aujourd'hui des États qui, on le voit par la vanité des thèmes débattus dans les campagnes électorales, qui sont complètement décalés par rapport aux grands enjeux du temps, parce qu'ils ont tout simplement pas le poids qu'il faut, la souveraineté requise pour peser sur un certain nombre d'enjeux. Les exemples sont légion et je pourrais y revenir, mais notamment les cours du pétrole, l'obsolescence programmée, l'austérité, le développement des paradis fiscaux, ça n'a jamais été débattu dans les campagnes électorales, alors que ce sont vraiment les enjeux les plus fondamentaux, beaucoup plus que beaucoup plus le burkini, disons quoi. Bon. Et en fait, les changements sont advenus. Il faut peut-être un dernier mot aussi sur les corporations. dans ces années, hein, au 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, les actionnaires étaient personnellement responsables. Hein, s'il y avait des arriérés quant au salaire, s'il y avait des dettes, des amendes, des dépassements de coûts, les actionnaires avaient un rapport à l'entreprise qui était étroit. Et c'est tout ça qui s'est mis à disparaître, aussi en raison du développement de ce que j'appellerais des proto-paradis fiscaux, là, c'est-à-dire ce qui commence à ressembler à des paradis fiscaux à l'intérieur des États-Unis, je vais y revenir. Mais d'abord, il y a un phénomène, disons, socio-historique, c'est la guerre de sécession à la fin du deuxième tiers du 19e siècle, où là, non seulement les partis s'endettent, mais aussi les partis requièrent beaucoup de l'industrie qu'elle déploie une force de production particulière, parce qu'on sait, en temps de guerre, tout est urgent, donc on développe, on innove énormément quant au volume, quant à la cadence de travail. Et ça, on a vu ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où la Deuxième Guerre mondiale a en quelque sorte fondé la mondialisation économique, parce que sans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas Coca-Cola ou McDonald's qui sont capables de servir le même sandwich et la même boisson partout dans le monde, le même jour, en même temps. Hein, c'est parce qu'on a développé des économies d'échelle sur un plan industriel absolument formidable, ce qui ne se serait pas fait sinon. Donc, la guerre de sécession, ça a été ça un peu avant l'heure, c'est qu'on a sollicité énormément l'appareil de production qui a développé des techniques pour s'imposer sur des grandes échelles qu'on ne connaissait pas avant. Donc, on a quitté l'idée de la petite fabrique, quoi. Bon. Il y a eu des jugements en cours, je ne sais pas si c'est intéressant de rentrer là-dedans, mais qui ont amené, par rapport à la gestion du fameux collège Dartmouth, l'État à se retirer d'une certaine forme de contrôle de la façon dont l'institution était gérée, sous prétexte que sa charte prévoyait une sorte d'indépendance, ce qui est évident parce que sa charte relevait de l'époque coloniale, donc l'État n'existait même pas. Donc forcément, comme l'État n'existait pas dans la charte, il ne pouvait pas être pensé qu'il intervienne. C'est un enjeu de jurisprudence que je vais passer parce que c'est un peu complexe, mais qui montre que des juges, progressivement, prennent des décisions qui tendent à faire perdre à l'État la capacité qu'il a à superviser la façon dont le capital est alloué, dont il se développe, dont il se déploie. Et bien entendu, on a en 1896 des États qui s'emparent du 14e amendement. Pour mémoire, le 14e amendement a été voté pour attribuer des droits aux Noirs qui découvraient une forme de liberté fort paradoxale, mais je n'y reviendrai pas. Mais on avait aménagé des droits pour s'assurer que la population noire, notamment, c'était la motivation, soit protégée contre éventuellement des décisions étatiques qui soient préjudiciables. Et ce sont les entreprises qui se sont apparues de cet amendement-là pour dire, lorsque l'État vote des lois en faveur des travailleurs, lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a, je ne sais pas, des règles sur l'administration du capital, comme entreprise, je suis brimé. Et l'État m'empêche de me prévaloir de ma liberté. Et il y a des juges qui ont donné leur aval à ce type d'interprétation-là. Et là, on a vu de plus en plus en droit. Et ça a été favorisé par toute la période qu'on a appelée à la fin du 19e siècle, celle des barons voleurs. Là, je vous invite à lire l'historien Howard Zinn. Là. Les barons voleurs qui ont eu les moyens de plus en plus de financer des campagnes électorales, de financer la carrière politique ou la carrière tout court de juge, et ainsi de suite, et d'influencer des décisions à la fois législatives et judiciaires en leur faveur, de sorte qu'à chaque fois qu'il y avait une grève, à chaque fois qu'il y avait une contestation de mesures publiques, c'était le capital qui l'emportait en voyant des tribunaux juger inconstitutionnels les mesures en cause. Et puis viennent ce que j'ai appelé les proto-paradis fiscaux, c'est-à-dire le Delaware, qui est toujours un paradis fiscal aujourd'hui, et le New Jersey, qui pour se développer, les États étaient beaucoup en concurrence les uns contre les autres, mais même des États qui étaient carrément des corporations en tant que telles, a développé des sortes de paradis réglementaires pour favoriser des entreprises dans leur volonté d'affranchissement de toute règle. Donc, au New Jersey et au Delaware, tout d'un coup, il est devenu possible pour les sociétés par action de s'affranchir complètement des contraintes publiques, à savoir qu'elles pouvaient tout d'un coup perdurer. Elles n'étaient plus contraintes par un mandat. Elles pouvaient tout d'un coup fusionner entre elles. Ah ben là, aujourd'hui, on n'est que là-dedans, quoi. Donc, fusionner, s'acheter, rivaliser, Donc, on est entré dans un mode concurrentiel un peu incontrôlable. Elles ont pu démultiplier leur champ d'action, ce qui explique aujourd'hui que la même société, la même multinationale aura des filiales dans le domaine du divertissement, de la cigarette, de l'agroalimentaire et de l'électronique. Et quoi encore? Bon, et surtout de restreindre la responsabilité des actionnaires. D'où l'expression des sociétés à responsabilité limitée, le fameux limité là, qu'on voit dans les raisons sociales, les groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, les actionnaires sont, en quelque sorte, protégés hein, quant à ce qui advient de l'entreprise. L'entreprise devient de plus en plus une figure autonome. Et je suis certain qu'un jour, les historiennes et historiens qui vont étudier notre époque, s'il y a encore une vie après nous, là, vont être stupéfaits de voir à quel point nous avons constitué des sociétés qui se sont laissées dominer par leurs créatures. Peut-être qu'un jour, là, des historiens diront que c'était une période Frankenstein, quoi, où on créait General Electric, on créait Esso, et là, tout d'un coup, ces entités-là devenaient des personnes, avec des droits. Oui, des personnes morales, excusez l'euphémisme. Moi, j'ai déjà été face à Barrick Gold, puis je vais vous dire que l'expression « personne morale » est un euphémisme. Bon. Donc, on a créé des espèces de sujets historiques qui ont énormément de pouvoir au service desquels on est et qui ont un côté autonome et qui, du point de vue de la responsabilité, sont distinctes des actionnaires qui bénéficient de leurs opérations. Et de plus en plus, on a développer la chose jusqu'à faire aujourd'hui du Delaware, non seulement un paradis fiscal tout à fait classique, secret bancaire, possibilité de délocaliser des actifs depuis l'extérieur des États-Unis sans qu'ils soient imposés, sans que les bénéficiaires réels soient connus, sans que les administrateurs aient à se nommer, un paradis fiscal opaque, criminogène, comme il n'y en a pas. Mais en plus, c'est une législation de complaisance à l'intérieur des États-Unis, parce qu'il y a énormément d'entreprises à l'intérieur des États-Unis qui évitent l'impôt des États où ils sont, en délocalisant formellement leurs actifs dans le paradis fiscal. Mais vous savez que la firme d'avocats qui enregistre ces multinationales-là est dans un immeuble qui n'a même pas un étage, c'est un rez-de-chaussée. C'est une boîte à beurre, on dirait un centre commercial des années 70. Hein. Et c'est la même firme qui fait seulement créer des lignes dans un registre. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de personnel. Donc, vous avez énormément de multinationales qui sont dans cet immeuble-là. C'est à croire qu'il y a un sous-sol de 200 étages. Quoi. Parce que rien n'indique qu'il y a autant de multinationales dans cet immeuble. Quoi. Et aujourd'hui, dans cette optique historique, le Delaware est le paradis réglementaire dans le domaine du dépôt de bilan. Je vous disais tout à l'heure, les paradis fiscaux, c'est un peu comme des boutiques dans un centre commercial. Là, ils ont chacun leur spécialité. Mais la spécialité du Delaware, notamment, c'est le dépôt de bilan. Ce n'est pas pour rien que Quebecor World est allé s'installer là-bas. C'est quand on fait un dépôt de bilan, les actionnaires ont encore moins de responsabilité quant à la chose que dans d'autres législations. Bon. Et ce qui est intéressant quand on voit tout ça, ça, c'est assez connu, cela dit. Hein, il y a le Joel Bakken qui a écrit là-dessus. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui de cette période-là? J'ai combien de temps? Qu'est-ce qui nous sépare de cette période-là? Et évidemment, il y aurait un cours à faire là-dessus. Là. C'est un chantier de recherche. Mais on peut au moins nommer une industrie particulière parce qu'elle a été assez avant-gardiste là, en ce qui regarde le déploiement de grands groupes tentaculaires avec énormément d'entités qui sont coordonnées entre elles par un conseil d'administration qui, formellement, ne gère pas grand-chose, mais coordonne des entités qui, elles, ont des actifs. Puis à la fin de l'année, quand l'entreprise déclare son bilan à ses actionnaires dans une assemblée générale, en fait, son bilan, c'est un bilan consolidé. C'est qu'on a additionné tout ce que font les petits groupes. Et parfois, on arrive même à oublier des activités déficitaires. Hein. C'est ce qu'on appelle le hors-bilan. On fait ça dans les paradis fiscaux aussi pour que les chiffres soient beaux. D'un coup, on transforme une dette en un actif. Hein. Ou on fait en sorte qu'une dette ne paraisse pas dans le bilan parce qu'on scinde l'entité du groupe par toutes sortes de manœuvres. Aux îles Caïmans, ils sont très bons pour ça. Et c'est beaucoup ce que la société Enron faisait avant de s'effondrer de manière spectaculaire. Quoi. Mais les sociétés pétrolières ont été parmi les premières à se développer ainsi, et en quelque sorte, non seulement, et c'est ce qui les caractérise, les multinationales, non seulement à se soustraire à la loi, à être hors de portée du droit, mais à un moment donné, à être tellement puissantes qu'elles peuvent créer du droit par le lobbying, par l'influence, par la menace, par le rapport de force. Vous nous votez cette loi-là, sinon nous, on fait ceci. Mais aussi à créer un climat mondial, un ordre économique qui est une loi. Là, on va parler de la loi du marché, de la loi de l'offre et de la demande, de la loi de la mondialisation. Je cite là des PDG qui m'ont dit, mais c'est, moi, je ne fais pas de politique, c'est comme ça, c'est la mondialisation, c'est le marché. Et on crée un climat, un contexte, un ordre qui force les États ensuite à voter certaines lois au sens législatif. Et les multinationales deviennent cette espèce d'acteur capable de générer à un titre ou à un autre une forme ou une autre de droit. C'est-à-dire des droits au sens là, de ce que fait un législateur quand il vote une loi, puis des lois au sens des lois économiques qui sont même présentées par des idéologues financés par eux souvent et qui enseignent même pas très loin d'ici, hein, qui vont présenter la chose comme des lois de la nature. Il y a la loi économique, il y a la loi de la gravité, c'est dans la même grande catégorie des lois. C'est des lois, on ne peut pas s'y opposer, ce sont des lois qui sont d'une manière assez machiavélique et perverse, sont présentées comme étant fondées scientifiquement, quoi, alors qu'elles sont purement idéologiques. On leur a donné un tour efficace. Bon. Et quand comment ces sociétés pétrolières se développent et comment elles le font ainsi? Bon, je continue dans mon histoire. Le pétrole. Bon. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le pétrole est surtout vu pour alimenter les lanternes. En fait, c'est pas remplace la graisse de baleine. En fait, c'est pas une ressource dans le dernier tiers du 19e siècle, encore prisé comme maintenant. Néanmoins, il y a une famille aux États-Unis, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, les Rockefeller, qui arrive à déjà flairer le coup et anticiper une chose fort importante, c'est que le pétrole, d'une part, peut devenir une source de monopole, parce que c'est une source d'énergie formidable qu'on découvre et qui est une énergie de l'avenir à l'époque et qu'il est important de créer un cadre factice, un cadre approprié pour rendre cette ressource-là l'objet d'un monopole parce qu'en fait, rien ne prédestine le pétrole à être l'objet d'un monopole. Pourquoi? Parce que le pétrole est facile à extraire, il est léger, il se transporte facilement, par rapport au charbon, là, à l'époque, vous voyez la différence. Là. Il n'a que des qualités, il est abondant en plus. Rien ne justifie que des multinationales exploitent le pétrole. On pourrait très bien avoir des coopératives de travailleurs, travailleuses, on pourrait très bien avoir des petites et moyennes entreprises, on pourrait avoir des milliers de petites entreprises qui exploitent à leur manière le pétrole, et là, on aurait vraiment ce qu'on n'a jamais eu, malgré toute la propagande qui se fait pas très loin d'ici, qui est un régime libéral. Moi, personnellement, je n'ai pas de sympathie tellement pour la philosophie libérale, mais je suis quand même suffisamment capable de lire pour dire que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le libéralisme. C'est l'oligarchie, ce n'est pas la même chose. Mais si on avait cru au libéralisme, si on défendait aujourd'hui le libéralisme, on pourrait dire, voilà ce qui aurait pu arriver. Hein, on aurait eu des entreprises qui se font vraiment concurrence avec des États qui veillent à ce que cette ressource-là ne soit pas dilapidée en 150 ans. Ben, on n'est pas fous quand même. Bon, et qu'on ne dote pas chaque citoyen d'une automobile comme si c'était un droit. Bon, et on aurait pu penser bon, les choses. Mais on a vu plutôt une entreprise, la Standard Oil, qui a compris qu'elle pouvait monopoliser la filière pétrolière en monopolisant toute la question du transport, qui est absolument incontournable. Je veux dire, en Alberta, on peut extraire tout le sable bitumineux qu'on veut s'il n'y a pas un pipeline qui le transporte jusque sur la côte est. Il ne vaut rien, ce pétrole-là. Il ne vaut que dans la mesure où des gens le transportent. C'est pour ça qu'il y a des enjeux politiques tellement importants sur la question des oléoducs, parce que bloquer l'oléoduc, c'est rendre sans valeur le pétrole albertain. Ben, c'était la même chose à l'époque. C'était le pétrole qui faisait que c'était le transport qui faisait que le pétrole avait une valeur. Et quand on monopolise toutes les infrastructures et les méthodes de transport, à ce moment-là, on a le dessus sur l'industrie et on peut dominer complètement la filière et même s'approprier les sociétés de production. Et pour faire une histoire courte, ça a commencé à gêner le Parlement, même s'il était assez corrompu, enfin, la Chambre des représentants, le Sénat aux États-Unis, le Congrès, de voir qu'il y avait ce groupe-là qui régnait sur un domaine. Et on a voté une loi en 1890 qui visait à casser ce monopole-là. Et les Rockefeller étaient tellement influents que c'est seulement en 1911, 21 ans plus tard, que la loi a enfin pu être appliquée et qu'on a dit à la Standard Oil, vous allez vous séparer, vous allez vous casser. Vous allez reconstituer un ordre d'apparence libérale où il y aura de la concurrence. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Rockefeller, toujours rusés? Ils sont pliés à la décision qui a pris 21 ans à advenir. Ils ont dit, très bien, on va créer la Standard Oil de la Californie, la Standard Oil de l'État de New York, la Standard Oil de... On en a fait 38 comme ça. On s'est constitué quelque sorte décideur partout. Et là, on a créé une multinationale à l'intérieur des États-Unis, si vous voulez, c'est-à-dire un groupe qui était coordonné par la principale Standard Oil, qui était évidemment au New Jersey, là où les lois étaient les plus permissives. Mais là, on s'est mis à coordonner toutes ces entités-là et on a existé de manière encore moins saisissable qu'avant parce qu'en plus, on respectait la loi. On respectait la loi, on faisait la même chose qu'avant. Puis on avait en quelque sorte forcé l'État à épuiser ses cartouches, quoi, et avec quelle énergie. Et dans le monde, la Standard Oil est devenue un modèle pour Shell, pour l'Anglo-Persian, qui va devenir la British Petroleum, la BP, qu'on connaît bien. Et d'autres groupes, et des banquiers qui investissaient beaucoup dans le pétrole, la Deutsche Bank, et ainsi de suite. Et là, on a commencé à comprendre que l'intérêt, c'était de contrôler les régions où on découvrait du pétrole pour s'assurer qu'on contrôle la production pour qu'il n'y ait surtout pas de concurrence. Et donc, une vraie guerre commerciale s'est installée entre les explorateurs pétroliers, surtout pas pour exploiter le pétrole, mais pour empêcher tout le monde de le faire. Donc, quand quelqu'un faisait une découverte, on allait voir le gouvernement ou un gouvernement voisin, on s'appropriait un territoire pour empêcher l'oléoduc de passer. On s'ennuie comme ça longtemps, puis ça a pu tourner parfois par, évidemment, population interposée. Là, on est en gentleman, on ne se fait pas la guerre directement, on laisse les damnés de la terre le faire. Mais on a assisté vraiment à des conflits, puis à des renversements. Bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais plus sur un mode narratif, là, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, au début du 20e siècle, on commence à comprendre progressivement qu'entre gens bien éduqués, peut-être qu'il serait mieux de considérer les avancées des uns et des autres et qu'on fasse la paix et qu'on s'entende dans une sorte de, je dirais pas un parlement du pétrole, mais enfin des officines qui arrivaient à se dire, ben on va ensemble convenir des actifs qu'on a les uns et les autres et on va co-gérer ce qu'il en est de l'offre pétrolière dans le monde. Bon, tout ça se passe au moment où le ministre, si vous voulez, de la marine britannique, qui était Winston Churchill, qu'on connaît bien pour d'autres raisons, mais qui était à l'époque ministre de la Marine britannique, convertisse le fonctionnement de la flotte britannique au mazout et donc ait besoin des sociétés pétrolières. Et là, Churchill est très embarrassé parce qu'il constate qu'il y a... Enfin, à l'époque, on n'a pas rien découvert dans la mer Noire, donc on pense qu'il n'y a pas de pétrole au Royaume-Uni. Puis on ne peut pas avoir... On est dans une logique insulaire, là, c'est le Royaume-Uni. Donc, évidemment, d'un point de vue stratégique, à l'aube de deux guerres mondiales qu'on pressent quand même, on dit qu'on ne peut pas laisser nos bateaux à la merci de sociétés et de sources d'approvisionnement qui ne sont pas chez nous. Alors, je passe sur les détails parce qu'il y a eu des tours de passe-passe, des mesures limites inconstitutionnelles, mais il reste que Churchill est parvenu à faire en sorte que le Royaume-Uni, comme État, achètent des actions massives de l'Anglo-Persian, qui est la future BP, pour strictement dans un souci d'approvisionnement. Et là, on commence à avoir des formes de collusion entre les États et les pétrolières. On a tellement besoin du pétrole, on ne sait tellement pas comment s'y prendre quand on gère un État, que On investit dans les sociétés pétrolières pour acheter des actions pour, avec une obsession qui est celle de l'approvisionnement, mais avec aucun souci politique quant à la au monstre qu'on est en train de créer. D'ailleurs, quand le Royaume-Uni achète des actions de BP, il ne se soucie même pas d'avoir une représentation majoritaire au sein du conseil d'administration, alors que la majorité des actions. Tout ce qui compte, c'est savoir s'assurer qu'on s'approvisionne. Donc, on laisse le groupe avoir une sorte d'autonomie avec l'argent de l'État, mais à la condition qu'il y ait un approvisionnement au bout du compte. Et c'est la même chose qui va se passer en France. Après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, les Français ont eu la fausse de leur vie. Vous savez que ça a été une boucherie pas possible, la Première Guerre mondiale. Et aussi, ça a été l'occasion d'un chantage inouï de la part des firmes pétrolières, tout comme la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, la Standard Oil, elle vendait aux Allemands, elle vendait aux Alliés, elle vendait comme des marchands d'armes, quoi. Elle n'avait aucun scrupule, elle vendait à ceux qui étaient prêts à acheter. Et puis, évidemment, les enchères montaient. Et en 1917, au moment où on savait vraiment pas qui, dans l'est de la France, autour de Verdun, de l'Allemagne, où la France allait l'emporter, le gouvernement Poincaré de l'époque s'est vu refuser une cargaison de pétrole qui permettait à ses engins de circuler. Et finalement, ça s'est dénoué in extremis, mais c'est fou l'histoire, hein, parce que s'il n'y avait pas eu cette cargaison-là, qui sait où on en serait aujourd'hui, quoi. Mais bon, grâce à étant donné cette peur, après la Première Guerre mondiale, les Français disent non, plus jamais ça, il faut faire comme les Britanniques, il faut aussi que nous ayons des parts dans une société qui va nous fournir du pétrole en cas de guerre. Et ça tombe bien, les Français gagnent, et on se rappelle, excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais c'est une histoire, bon, on se rappelle que avant la Première Guerre mondiale, il y a un consortium qui commençait à se créer, parce que je vous ai dit qu'on commençait à grenouiller entre sociétés pétrolières. Et on avait déjà mis sur papier les plans d'un cartel dans l'Empire ottoman qui s'appelait la Turkish Petroleum Company. Puis c'était officiellement, c'était une société à but non lucratif qui visait à coordonner les efforts de trois grandes sociétés à l'époque non américaine, la Anglo-Persian, la Shell et la banque, la Deutsche Bank, qui avait des intérêts dans le domaine pétrolier. Mais la Deutsche Bank, elle est allemande, puis les Allemands ont perdu la guerre, ça tombe trop bien. Les Français veulent les parts allemandes en termes de compensation. Ils les obtiennent, ça prend 2 ans de négociation, je ne les raconte pas. Et à la fin, la France est partie prenante de ce consortium-là. Mais la France n'a aucune compétence dans le domaine pétrolier. Elle est vraiment à la traîne. Elle a créé la Compagnie française de pétrole, qui va devenir Total aujourd'hui. Et elle le crée d'une manière inconstitutionnelle parce que, évidemment, elle engage des fonds de l'État. Et lorsqu'on engage des fonds de l'État en France sous la Troisième République, il faut que le Parlement soit consulté. Il ne l'est pas. Et on le fait dans un cartel qui contrevient absolument à l'esprit de toutes les lois en France et aux États-Unis d'ailleurs sur les monopoles. À l'époque, on se donne des lois antitrust. Mais évidemment, le cartel est dans l'ex-Empire ottoman. Il n'est pas en France. Donc, on fait dans l'Empire ottoman ce qui est impensable en France. C'est-à-dire qu'on crée un cartel qui va, vous le verrez, faire la loi, pas seulement dans cette région-là, mais dans le monde. C'est comme ça que les multinationales du pétrole vont se développer. Et je vais peut-être juste finir là-dessus. J'en suis qu'au tiers, mais on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment... à partir de là, survient 3 choses qui sont, significatives quant à là où nous sommes aujourd'hui, quant à ces pouvoirs-là. D'abord, le Royaume-Uni et la France, en passant par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, parvient à faire en sorte qu'on démantèle l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est énorme, là. Turquie, Irak, bon. On démantèle cet empire-là pour se donner des États strictement pensés en fonction de l'industrie pétrolière, nommément l'Irak. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les guerres d'Irak qu'on a eues ces dernières décennies, là. On a créé l'Irak et on a appelé, informellement, là, ce pays-là une enveloppe juridique. Ce n'est même pas un pays. L'Irak a été créé strictement pour permettre aux entreprises de la Turkish Petroleum Company, qui est devenue l'Irak Petroleum Company, qui était constitué de Shell, de BP, de Total maintenant, et des Américaines qui se sont ajoutées, parce que les Américaines ont dit « si vous ne voulez pas une guerre comme celle qu'on a évitée en se parlant entre gentlemen, vous avez intérêt à nous intégrer », ce qu'ils ont fait. Et là, on a eu ces quatre grandes entités pétrolières-là qui se sont donné un État, l'Irak, qui avait pour seule visée, au fond, de permettre l'investissement dans le domaine pétrolier avec une sécurité juridique. En gros, le message, c'est de dire, nous, on investit beaucoup pour créer des routes, d'ailleurs, vous allez nous aider, des routes, des oléoducs, des puits, des foreuses. C'est 6 ou 7 ans d'investissement. Pendant ce temps-là, nous, on ne veut pas qu'un gouvernement change ou avoir à composer avec des gens ou ainsi de suite. Donc, vous nous donnez une sorte de bulle légale, évidemment, dans laquelle il n'y aura pas d'impôts quand même. Les redevances seront minimales, puis c'est pour vous permettre de fonctionner puis de payer l'armée, quoi, puis de financer ce dont on a besoin, nous. Nous allons régner. Le Royaume-Uni, de toute façon, a beaucoup d'expertise là-dedans. Il a créé le Canada, qui est exactement ça. Une enveloppe juridique pour exploiter toutes sortes de ressources. Il n'y a qu'à regarder comment l'Alberta fonctionne pour voir que c'est un modèle tout à fait comparable. Et donc, on crée ce type de pays qui va devenir, au fond, la perspective géopolitique du 20e siècle quant à ce que doit être un État. Un État, c'est ou bien une puissance qui soutient par tous les moyens l'industrie pétrolière dont elle est dépendante pour sa propre sécurité nationale, ou bien une enveloppe juridique que cet État-là a subordonné, a vassalisé, a dominé, a colonisé pour permettre à ces groupes pétroliers-là d'exploiter librement. Et on rentre dans des logiques comme ça. Et en 1928, on a là une année déterminante pour, dans l'histoire, disons, du capital, quoi, et du capitalisme. Parce que là, on voit, d'une part, ces sociétés-là, qui vont devenir assez vite les 7 sœurs, le Total se présentant comme la 8e des 7 sœurs, parce qu'il est toujours à la traîne, on a, à ce moment-là, 2 moments importants, ou disons peut-être 3 même, si on veut, mais 2 au moins, entre ces acteurs puissants-là. C'est d'une part ce qu'on a appelé l'accord de la ligne rouge. Hein, dans une réunion, il y a quelqu'un qui a sorti un crayon rouge, puis il a retracé sur une carte les frontières de l'Empire ottoman qu'on avait démantelé. Il a dit, dans cet empire-là, désormais, les parts de marché entre nous vont rester les mêmes, quoi qu'on découvre. Si quelqu'un fait une découverte, il va chercher les autres, puis on travaille ensemble. Donc, on fige le marché. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Et si, même si l'État français, par exemple, voulait, parce qu'il avait 35 % des parts de la société, là, même s'il voulait vendre ses parts, il faudrait qu'il les vende aux autres. On fige le truc. On crée une sorte de pouvoir politique sur le pétrole qui n'a plus rien à voir avec les États. Et on crée des règles du jeu qui sont totalement illégal. Je veux dire, on ferait ça, nous, ici, là, dire, OK, on fixe les règles du jeu entre nous parce qu'on domine un marché, ça serait illégal. Mais là-bas, on le fait, bon, d'une part. Et d'autre part, on signe ce qu'on a appelé l'accord as-is, ou l'accord de Aknakari. Enfin, c'est l'accord d'Aknakari qu'on a résumé par l'accord as-is. Et l'accord as-is, l'expression le dit, c'est qu'on garde le niveau d'offre au point où il est maintenant. Et il n'augmentera que si le marché lui-même augmente. Mais il faut toujours que le rapport soit le même avec des modes de calcul sur les points de transport qui favorisent toujours une hausse des coûts de façon à fixer les prix. Donc, on fixe le marché et on fixe les prix. Et on fixe un ordre politique, c'est-à-dire on fixe les règles du jeu par rapport auxquelles tout le jeu législatif et politique va se faire. Et en France, on a assez vite une expérience de tout ça, parce qu'en 1928, cette même année-là, la France vote une loi contre le dumping. Parce qu'elle se dit, parce qu'il y a eu des précédents, on ne voudrait quand même pas, on connaît ça, ça est arrivé déjà dans une moindre mesure, on ne voudrait pas qu'une société puissante, dans le domaine de la raffinerie, par exemple, vende du pétrole à perte, de l'essence à perte à la pompe, là, pour faire en sorte que les petits concurrents s'écroule parce qu'ils ne soient pas capables de faire face à la concurrence. Et quand on les aura bien, bien mis à genoux, nous, on va s'accaparer les parts de marché et hausser les prix. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement français? Il établit des standards. Il dit, ben, il faut que telle part de marché revienne à des raffineurs français, il faut que telle part des Américains. Bon. Et la réaction des entreprises est de dire, ah, ben l'État fixe des quotas, ça veut dire que c'est légitime, alors nous, on va s'asseoir entre nous, on va en fixer entre nous. Et pendant des décennies, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, les entreprises, les représentants d'entreprises pétrolières, je ne sais trop dans quel contexte, parce que c'est moins public que les débats du Parlement, se rencontrent. À l'époque, c'était hebdomadaire, parce qu'il y a eu une commission d'enquête en 1974 qui a tout révélé d'un parlementaire très courageux, qui était un gaulliste de gauche, là, qui s'appelait Julien Schwartz, qui a, en quelque sorte, révélé tous les mécanismes. Au point où on a même vu le président d'Air France raconter que désormais, on lui disait qu'il fallait qu'il achète 10 % de son ravitaillement à telle firme. Puis après ça, on lui disait non, c'est fini, va voir le voisin, parce qu'on avait établi des quotas par rapport à la vente de gros, quoi, aux gros clients. Bon, c'était mon introduction. Mais je n'irai pas tellement plus loin, simplement dire que Je dois conclure, hein? Je crois que vous êtes là. 5 minutes. Bon, c'est ça. Je dirais, on pourrait continuer longtemps, mais ce qu'on voit, c'est comment ces pouvoirs ne viennent pas de nulle part. Et ils sont étroitement liés à la complicité des États, mais aussi à un développement autonome qui les amène à créer des dynamiques mondiales dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie, qui finissent par avoir une sorte de valeur de loi que des idéologues ensuite vont, en quelque sorte, consolider sur un mode pseudo-scientifique, hein, mais toujours dans le but de, je dirais, de verrouiller le sens de l'histoire et de nuire à ce que est en principe un état de droit quand on lit des traités constitutionnels ou des ouvrages de pensée politique, là, disons, de Hobbes à Rancière, en passant par d'autres figures, quoi. Et si on veut, disons, trouver la trace aujourd'hui, je vais faire un grand saut jusqu'à maintenant, puis je vais m'en tenir à ça. Si on veut faire un grand saut, ou si on veut lire les choses à rebours, c'est en raison de cette histoire-là qu'on peut comprendre, par exemple, les accords de libre-échange ou les mécanismes d'arbitrage, qui consiste toujours plus à rendre les multinationales souveraines. Et bien sûr, les paradis fiscaux. Là, je ne reviendrai pas à ma conférence précédente, mais vous auriez la jonction, c'est-à-dire que après le plan Marshall, hein, dans les années 50-60, on a eu ces pétrodollars, ces eurodollars qui se sont développés. C'était une masse de liquidité financière qui était contrôlée par aucune autorité, parce que les Américains faisaient aller la planche à billets puis ils arrosaient le monde parce qu'ils étaient en position de force après la guerre. Et puis après ça, c'était au monde de considérer l'économie à partir de cette devise-là. Et c'est là que le secrétaire au Trésor aux États-Unis avait dit, après la Deuxième Guerre mondiale, avait dit « Le dollar américain, c'est notre devise, mais c'est votre problème parce que tout le monde en a. » Et tout le monde en a, tout le monde a intérêt à ce que cette mesure-là, cette monnaie-là soit forte parce qu'on en a tous dans nos coffres. On libelle énormément de dépenses par cette monnaie-là. Donc, à ce moment-là, les paradis fiscaux se sont développés. Cette finance-là est devenue éthérée, surtout après l'abandon de l'étalon or en 1971. Donc, on a eu des monnaies volatiles, des capitaux qui circulaient de toutes parts sans être contrôlés par les États, des paradis fiscaux qui ont permis aux multinationales et aux banques de se développer sans respecter quelque loi que ce soit, en étant de plus en plus fortes, en étant ce qu'on appelle aujourd'hui « economies », quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, on ne parlera plus d'État, on va parler, au fond, d'économie au pluriel. On va dire que Coca-Cola est une économie, que le Canada est une économie, quoi. Québec est une économie, Toyota est une économie, on finit par confondre tous ces pouvoirs-là, on devrait dire des pouvoirs, en fait. On a donné aux multinationales les assises de nouveaux pouvoirs, et avec les accords de libre-échange, avec les mécanismes d'arbitrage, aujourd'hui, on a des multinationales qui ont légalement le pouvoir de poursuivre des États. Quand l'État dit non, ce médicament-là nuit à la santé publique des citoyens, oui, il y a une mesure sociale ici qu'on va maintenir parce que c'est important pour, je ne sais pas, l'éducation, la sécurité, quel que soit le motif. Aujourd'hui, quand un gouvernement a en tête de voter une mesure sociale, elle risque de lui coûter tellement cher, étant donné que cela peut lui être reproché par une entreprise qui estime que ces mesures la briment dans sa capacité à pratiquer librement le commerce, hein, un État doit parfois devoir des millions de dollars à des entités privées parce qu'elles ont eu l'odieux de voter une loi de type social. Et le comble de tout ça s'est observé lors de la deuxième guerre du Golfe, si je ne m'abuse, l'ONU avait mis sur pied un programme qui obligeait les Irakiens qui avaient subi des tonnes de bombes pendant plusieurs semaines à compenser les multinationales qui, pendant la guerre, n'avaient pas pu faire du business là-bas. Et l'exemple le plus choquant avait été les millions de dollars que les Irakiens avaient dû notamment verser à Toys R Us, parce que pendant la guerre, ils ne pouvaient pas vendre des jouets en plastique. Alors, c'est... j'espère ne pas vous avoir trop déprimé. Mais, donc, c'est... Donc, si on veut, en quelque sorte... ça me fait vraiment du bien de vous rencontrer puis de parler de ces... cette activité-là, parce que ça me permet aussi de sortir d'une marotte là, que j'ai fini par avoir sur les paradis fiscaux. Un jour, un député québécois m'avait dit que j'étais le poster boy des paradis fiscaux. Je ne l'ai pas pris comme un compliment. Donc, c'est vraiment chouette qu'on puisse ouvrir la discussion sur des enjeux aussi larges, même si ce n'est pas encore tout à fait étoffé du point de vue de la thèse. Et je serais absolument ravi d'avoir vos commentaires.